6h-7h, les petits matins de France Culture. Tout de suite, le journal Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Et l'actualité de ce lundi 4 janvier est toujours marquée, bien sûr, par l'épidémie de Covid-19 et les stratégies vaccinales des différents pays. En France, le président de la République aurait exigé une vaccination plus rapide et une administration moins tatillonne, à en croire en tout cas le journal du dimanche. Selon le ministère de la Santé, 516 personnes seulement étaient vaccinées en France au 1er janvier. 35 personnes tirées au sort seront en outre chargées de se prononcer sur la stratégie française. Un tirage au sort qui commence ce lundi. Les Anglais, eux, deviennent le premier pays à administrer un deuxième vaccin, celui du laboratoire britannique AstraZeneca, tout en envisageant de nouvelles restrictions car le niveau de contamination s'aggrave notamment à cause de la variante plus contagieuse du virus. Plusieurs autres pays accélèrent également leur campagne de vaccination. C'est le cas en Israël notamment, où les tentes de vaccination sont prises d'assaut, mais l'Union européenne a reconnu samedi une insuffisance mondiale des capacités de production de ces vaccins. L'actualité, c'est aussi le Brexit, effectif depuis vendredi, et qui va changer le concret de nombreux touristes, étudiants et travailleurs. Les Britanniques sont désormais considérés dans l'Union européenne comme les ressortissants d'un pays tiers. Ils ne bénéficient plus de la liberté de mouvement pour travailler, étudier ou prendre leur retraite sur le territoire de l'Union. Et puis en Angleterre, toujours, la justice doit se prononcer aujourd'hui sur l'extradition du fondateur de Wikileaks, l'Australien Julian Assange. Il est réclamé par les États-Unis qui veulent le juger pour espionnage après la publication de centaines de milliers de documents confidentiels. Il risque potentiellement 175 ans de prison pour avoir, selon la justice américaine, mis en danger des sources des services américains. Ses avocats s'inquiètent de l'état psychologique de Julian Assange. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Enfin, 100 personnes ont été tuées et 25 blessées au Niger en pleine élection présidentielle dans l'attaque de deux villages de l'ouest du pays hier, l'un des pires massacres de civils dans ce pays.
Et si l'économie ouvrait la voie à un avenir meilleur ?
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, on se met en quête d'une économie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Comment orienter la croissance vers la santé et le bien-être ? La finance va-t-elle accélérer sa conversion à l'écologie ? Et comment pouvons-nous, individuellement et au sein de l'entreprise, participer à la construction de ce monde d'après ? Autant de questions dont on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la comédie française, c'est un boulimique de travail au désir incessant de jouer et faire jouer.
Et là, on a développé avec Christophe un autre culte de Proust, en échangeant des textes, des impressions, en lisant, en se disant maintenant on fait une lecture exhaustive, il faut lire toute la recherche.
Denis Podalydès se raconte à voix nue de lundi à vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h03 sur France Culture, l'heure de retrouver le monde vivant de Bruno David. Ce matin, le sang bleu des limules.
Les aristocrates ont le sang bleu, c'est bien connu. Peut-être un lien avec le bleu de leurs veines, vu à travers une peau diaphane qui se gardait du soleil. Admettons ce signe d'appartenance. Mais si nous allons au bout de cette logique, alors, au risque de déplaire, les limules occupent le sommet de l'aristocratie, au-dessus même de nos princes les plus prestigieux. Mais qui sont ces limules et qu'ont-elles de particulier pour oser prétendre à ce statut aristocratique suprême ? Sur une plage de la côte est américaine, vous apercevez une carapace en forme de fer à cheval. Un animal appelé ici « horseshoe crab ». Mais ce n'est pas un crabe, ce n'est même pas un crustacé. Cet animal de 60 cm, étrangement cuirassé, présente à l'avant un bouclier robuste, large et arrondi, suivi d'une plaque frangée d'épines, puis d'un éperon rigide en guise de queue. Si vous le retournez, 6 paires d'appendices s'agitent à la recherche d'un appui. Vous reculez instinctivement, car nous n'aimons pas les animaux avec trop de pattes. La première paire de pattes sont des pinces, appelées chélicères, avec lesquelles la limule broie ses proies. Les 5 autres paires sont locomotrices. Le nom de l'espèce actuelle la plus commune, Limulus polyphemus, fait référence à Polyphème, le cyclope d'Homère. Cette appellation ressemble à une bonne blague, lorsqu'on sait que la limule a 9 yeux, deux gros yeux composés, associés à trois autres paires discrètes, plus un neuvième œil unique à l'avant. Les limules fréquentent les eaux du plateau continental, dont elles explorent les fonds meubles à la recherche de petites proies. Lorsqu'elles ne se déplacent pas en marchant, elles nagent curieusement sur le dos. En période de reproduction, elles s'aventurent sur les littoraux où, assez lentes, elles ont attiré le regard au point d'avoir été en danger d'extinction. Au début du XXe siècle, on les broyait pour servir d'engrais ou de farine animale destinée à l'élevage porcin. Revenons maintenant à notre histoire d'aristocrate. Le sang des limules transporte l'oxygène non pas avec de l'hémoglobine, de couleur rouge due au fer, mais avec de l'hémocyanine qui renferme du cuivre et qui est du plus beau bleu. Ce sang n'est pas seulement bleu, mais il contient une substance fabuleuse, le coagulogène, qui, réagissant à la présence de bactéries, gélifie localement le sang. Le sang de limule est donc précieux pour détecter bactéries ou toxines dans différents produits et médicaments. 500 000 sont ponctionnés chaque année pour récupérer le précieux coagulogène, qui valait 10 000 euros le litre en 2018. Lourd prix à payer pour les limules dont 30% en meurent. Tout comme les aristocrates, il y en a de moins en moins. Pourtant, le groupe des limules a jadis été très prospère, son origine remontant à plus de 500 millions d'années. Alors les limules sont non seulement des aristocrates à sang bleu, mais aussi les ultimes rejetons d'un lignage qui fait passer celui de Saint-Louis pour rikiki.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Lovecraft, c'est bon, ça paraît surprenant de l'extérieur, mais en fait, pour quelqu'un qui a lu beaucoup de ce genre de choses, c'est fondamental, quoi, Lovecraft. Il y a vraiment un avant et un après Lovecraft. Ce qu'il a vraiment apporté de plus nouveau, c'est l'utilisation de matériaux multiples. Des faux articles de journaux, enfin, il écrit des articles de journaux, des comptes rendus scientifiques, tout ce genre de choses, qui se faisaient pas du tout avant dans la littérature fantastique. Ce qui s'est pas tellement fait après non plus, d'ailleurs.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et quelle voix reconnaissable, Michel Houellebecq, bien sûr. À propos de H.P. Lovecraft, c'était en 1991 quand le futur grand romancier français sortait un essai sur son auteur américain de prédilection. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes reposés, apaisés, voire en forme en cette nouvelle année 2021. Je ne sais pas quelles sont les lectures qui vous ont accompagné durant ces drôles de vacances d'hiver, mais en ce qui me concerne, de Noël à Nouvel An, j'étais avec les nouvelles de Lovecraft. Les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft, des nouvelles traductions et un inédit, ça vient de sortir aux éditions rue Saint-Ambroise. Lovecraft ne nous lâche plus en fait, lui qui n'a pas connu de succès de son vivant, n'a pas raté le rendez-vous avec la postérité, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis quelques trois décennies, Lovecraft ne cesse d'être une des plus grandes sources d'inspiration pour les artistes, pour la culture pop en général. Cinéma, séries télé, musique, littérature, jeux vidéo et même bande dessinée. D'ailleurs, quand le mois dernier, on apprenait la mort du grand dessinateur américain Richard Corben, maître de l'illustration fantastique, mon premier geste, en guise d'hommage, était de replonger dans ses adaptations des nouvelles de Lovecraft, dans Haunt of Horror. C'est une pure merveille que je vous recommande vivement. Toujours en BD, d'un autre univers et d'une autre génération, Riyad Sattouf a rendu hommage à H.P. Lovecraft à sa manière dans le dernier tome de l'Arabe du Futur, paru il y a deux mois. Et puis enfin, je voudrais vous signaler que Gallimard vient de sortir en audio-livre cette fois-ci, l'essai que Michel Houellebecq avait consacré à Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, contre le monde, contre la vie. Et puis bien sûr, il y a ces meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft récemment parues. J'en parlerai avec Bernardo Toro, l'éditeur de la rue Saint-Ambroise, qui est mon invité ce matin. Et on retrouvera aussi Riyad Sattouf, qui nous racontera, comme dans sa BD, à quel point la découverte de Lovecraft fut importante pour l'adolescent qu'il était au début des années 90.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
« Howard Philip Lovecraft, donc le plus grand et le plus énigmatique écrivain de la littérature fantastique du XXe siècle, est mort en 1937 dans l'anonymat le plus absolu. De son vivant, ses nouvelles publiées dans des pulp magazines lui ont valu peut-être un certain succès critique auprès des éditeurs de ses journaux, mais sans jamais lui ouvrir les portes des grandes maisons d'édition. La reconnaissance de Lovecraft viendra des années après sa mort, et d'abord en France. Et ces dernières années, on l'a dit, Lovecraft est plus que jamais présent et cité. L'œuvre du créateur du mythe de Cthulhu et des grands anciens imprègne la culture pop d'aujourd'hui. Alors, en préambule, j'ai envie de vous faire écouter ce qu'écrivait Michel Houellebecq en 1991, puisque Gallimard a décidé de sortir l'essai de Michel Houellebecq en audio-livre, comme on dit. Voici donc quelques extraits lus par Franck Desmet.
Howard Phillips Lovecraft constitue un exemple pour tous ceux qui souhaitent apprendre à rater leur vie et éventuellement à réussir leur œuvre. Encore que, sur ce dernier point, le résultat ne soit pas garanti. À force de pratiquer une politique de total non-engagement vis-à-vis des réalités vitales, on risque de sombrer dans une apathie complète et de ne même plus écrire. Et c'est bien ce qui a manqué de lui arriver à plusieurs reprises. Un autre danger est le suicide, avec lequel il faudra apprendre à négocier. Ainsi, Lovecraft a toujours gardé à portée de la main, pendant plusieurs années, une petite bouteille de cyanure. Cela peut s'avérer extrêmement utile à condition de tenir le coup. Il a tenu le coup, non sans difficulté. Les héros de Lovecraft se dépouillent de toute vie, renoncent à toute joie humaine, deviennent purs intellects, purs esprits tendus vers un seul but, la recherche de la connaissance. Au bout de leur quête, une effroyable révélation les attend. Des marécages de la Louisiane au plateau gelé du désert antarctique, en plein cœur de New York, comme dans les sombres vallées campagnardes du Vermont, tout proclame la présence universelle du mal.
Un extrait donc de l'essai publié en 91. Il s'était mis à cet essai Michel Houellebecq en 1988. Cela lui a pris 3 ans. Premier livre paru avant même ses romans H.P. Lovecraft, Contre le monde, contre la vie, que Gallimard a décidé de ressortir en audiobook avec la voix de Franck Desmet pour lire le texte de Michel Houellebecq. Bernard Dottoro, vous êtes avec nous, donc vous avez entendu un peu ce que pensait Michel Houellebecq. Si ça se trouve, vous avez lu l'essai consacré à Lovecraft de Michel Houellebecq. Vous qui êtes donc l'éditeur de ces meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft qui sortent avec des nouvelles traductions d'Isabelle Barra et une nouvelle inédite. Pour vous, il représente l'auteur maudit Lovecraft. Quelle définition donneriez-vous de cet auteur ?
J'aimerais dire que c'est avant tout un écrivain, et je pense qu'on a beaucoup insisté, Houellebecq le premier, sur la dimension imaginaire chez Lovecraft, en ce sens qu'il serait le découvreur, l'inventeur, le créateur d'un monde, d'une cosmogonie. Et cela était sans doute vrai et important, mais au détriment de l'écrivain et de sa dimension littéraire dont Houellebecq parle peu, dont on a assez peu parlé. La France a joué un grand rôle dans la reconnaissance de Lovecraft. Mais il est resté en France un écrivain de littérature de genre, un écrivain de science-fiction, un écrivain d'horreur. Et il ne s'est pas passé ce qui s'est passé avec Edgar Poe. La traduction de Charles Baudelaire a beaucoup joué pour que d'emblée, Edgar Poe soit considéré comme un écrivain à part entière et non pas simplement comme un écrivain de genre. Et je dirais que la tentative que nous avons faite avec ce livre, c'est justement de restituer la dimension proprement littéraire de l'œuvre Lovecraft et de le considérer d'emblée comme un écrivain, et non pas simplement comme le créateur d'un monde.
Un écrivain, parce que dans le texte, dans la traduction d'Isabelle Barra, la traductrice de ces nouvelles que vous publiez aux éditions Saint-Ambroise, elle dit que la chose la plus horrifique, c'est plutôt son écriture.
Exactement. Le monstre chez Lovecraft, c'est l'écriture. Et...
Des nouvelles traductions, pourquoi des nouvelles traductions de Lovecraft, en reprenant les meilleures nouvelles pour aujourd'hui?
Parce que Lovecraft avait été relativement mal traduit. Il était considéré comme un écrivain mineur, c'est-à-dire un styliste assez brut. Du coup, les traducteurs ont eu souvent tendance à corriger un peu les impuretés de la prose de Lovecraft, à la rendre plus efficace, en éliminant énormément des choses qui leur semblaient être en trop, et obscurcir un peu l'efficacité du texte. Donc nous avons essayé de restituer, en fait Isabelle Barra a essayé de restituer le vrai Lovecraft, est extrêmement surchargé, baroque, avec des épithètes, des points-virgules, qui ne laissent pas respirer le texte. Mm-hmm. Un Lovecraft, c'est une prose qui est assez mal connue en France, parce qu'il y a tout ce travail de lissage, de nettoyage de la prose qui a été fait.
C'est vrai, si Lovecraft, pour nous, les lecteurs, c'est d'abord un univers cauchemardesque entre fantastique et science-fiction, entre occultisme et mythes anciens, entre planètes lointaines et fonds marins, et dans un monde plutôt peuplé de personnages névrosés, d'entités extraterrestres au pouvoir immense, comme le gigantesque Cthulhu, tapis au fond de l'océan Pacifique. Lovecraft, dites-vous, ou plus exactement, dit Isabelle Barra en introduction de ce recueil de nouvelles que vous publiez aux éditions Rue Saint-Ambroise, Lovecraft, c'est aussi un style. Le monstre véritable chez Lovecraft, c'est l'écriture.
Tout à fait, tout à fait. Les arts visuels, le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo sont beaucoup intéressés à l'œuvre de Lovecraft. Si bien que quand on pense à lui aujourd'hui, on voit des pieuvres géantes, des tentacules verdâtres.
C'est-à-dire que son univers a pris le dessus sur son écriture.
Voilà, tout cet imaginaire-là prend un peu la place de l'écriture. Et du coup, c'est un contresens. C'est un contresens. Si l'on prend par exemple une nouvelle comme l'appel de Cthulhu, on s'aperçoit que le monstre le voit quasiment pas. Il y a très peu de descriptions qui soient faites de lui. Ce qu'on nous dit au contraire, c'est qu'il est irréprésentable et qu'il est même inconcevable. C'est-à-dire que non seulement il choque les sens et la vue, mais la pensée elle-même. On n'arrive pas, même pas à imaginer sa puissance. Du coup, ça met en échec le langage lui-même. Et donc le langage, le style de Lovecraft n'est pas là pour montrer le monstre, pour essayer de nous le décrire, mais plutôt c'est un peu comme une système immunitaire qui, face à cette frayeur et face à cet irreprésentable-là, sécrète des anticorps qui sont les phrases pour essayer de conjurer en fait l'horreur par le style, par la joue et la superposition d'adjectifs, par le point-virgule, par toutes ces descriptions qui n'en finissent plus, qui finissent à force de s'accumuler par obscurcir le texte alors qu'ils sont censés apporter une forme de clarté. Et c'est cette dimension de l'écriture qui a été un peu gommée. Et c'est cette dimension qui est proprement monstrueuse.
Et que vous restituez donc avec ces nouvelles traductions signées Isabelle Barra, entre autres, dans ce recueil, donc les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft. Je voulais vous poser une question qu'on pose généralement à des lecteurs, beaucoup plus qu'à des spécialistes ou à des éditeurs, c'est-à-dire quelle est la nouvelle de Lovecraft qui vous a le plus marqué ou qui vous a donné envie d'aller encore plus profondément dans l'œuvre de cet auteur. Mais avant de vous donner la parole à vous, Bernardo Moreau, j'aimerais que vous écoutiez un peu le Riyad Satouf, qui lui-même est un fan absolu de Lovecraft. Il en parlait justement dans le Réveil culturel à l'occasion de la sortie du 5e tome de l'Arabe du futur il y a 2 mois.
C'est le moment où j'ai découvert aussi Howard Philip Lovecraft, dont je parle dans ce livre, et qui a été très important, parce que en tant que figure d'écrivain, moi ce qui m'intéressait aussi, c'était les personnalités des écrivains, les personnalités des créateurs. Et alors Lovecraft, il est absolument génial, parce que c'est un homme qui a fait une œuvre qui a influencé toute la culture populaire moderne, et qui n'a jamais connu le début d'un succès. C'est-à-dire il est mort dans la misère, seul, sans avoir jamais eu quasiment de rapport social. Il avait un physique assez particulier qui était un petit peu effrayant. Je me sentais très proche de ce personnage, de cet homme qui avait quelque chose de rassurant, parce qu'on se disait on ne peut difficilement plus rater sa vie que lui. C'est-à-dire responsable d'une œuvre, mais de ne jamais voir qu'elle touche quiconque, c'est quelque chose d'affreux. Enfin, comme dirait Lovecraft lui-même, il y a quelque chose d'innommable là-dedans. Et voilà, tout cet univers d'horreur, de surnaturel, de paranormal, c'est quelque chose que j'aborde dans ce livre. Alors, un détail très très simple, c'est que lorsque je disais aux gens, alors là, souvent, bon, les personnes qui pouvaient s'intéresser un petit peu à moi ou mon histoire, la première chose qu'ils me demandaient, c'est quoi ce prénom Riyad et Satouf, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque, donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, etc. On ne savait pas tout de suite que Riyad Satouf, c'était un nom arabe. Donc, un jour, j'ai des copains un petit peu plus intello et cultivés que les autres qui m'ont posé cette question. Je leur ai dit que j'étais syrien. Et là, tout de suite, ils ont fait référence à un personnage inventé par Howard Philip Lovecraft qui s'appelle Abdul Al-Hazad, qui est un écrivain mythique inventé par Lovecraft qui aurait écrit le Necronomicon, qui est un livre maudit. Et c'était un arabe dément qui a écrit le Necronomicon, donc à Damas. Et donc je suis entré comme ça dans le monde des livres de grands à travers cette porte, la porte d'Abdul Al-Hazred.
Voilà, c'était bien sûr Riyad Satouf, parlons de Lovecraft dans le Réveil culturel à l'occasion de la sortie de l'Arabe du futur, le dernier tome sorti en novembre. Bernardo Toro, on a l'impression que le personnage le plus énigmatique dans l'œuvre de Lovecraft, c'est Lovecraft lui-même. Isabelle Barra disait que le monstre dans l'œuvre de Lovecraft, c'est son écriture. Et là, on se rend compte aussi bien chez Michel Houellebecq que chez Riyad Satouf que lorsqu'on parle de Lovecraft, le personnage, l'écrivain, est tout aussi présent, cité comme les autres protagonistes de son monde mystérieux.
Oui, tout à fait. C'est un personnage un peu énigmatique et un personnage maudit. Mais je crois qu'il y a une dimension philosophique dans son œuvre et qu'il a perçu très tôt, parce que ce n'est pas de la philosophie abstraite, mais de la philosophie concrète. Il a commencé par faire des études d'astronomie, il regardait le ciel et il voyait que l'homme dans cet univers extraordinairement vaste était une sorte de poussière totalement insignifiante. Et je crois que toute son œuvre est liée, est un moyen pour pouvoir représenter cette insignifiance de l'homme, ce qui est très troublant dans son œuvre, ce qui fait qu'elle passe aussi assez mal au cinéma, c'est le fait qu'il n'y a pas, absolument pas de combat Lovecraft, et il n'y a pas de schéma narratif au sens où un élément perturbateur génère une opposition entre deux forces. Il n'y a pas d'héros, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils.
Enfin, il y a beaucoup de méchants, si, il y a beaucoup de méchants, il n'y a pas de gentils peut-être. Mais tout.
Mais non, oui. Parce que les méchants, si vous voulez, ils n'ont pas la volonté de nuire. Ils provoquent beaucoup de mal. Mais il n'y a aucune volonté de leur part de nuire. Ils provoquent le mal et ils s'en fichent éperdument des créatures qu'ils détruisent, qu'ils anéantissent. Ce n'est pas du tout leur intention.
Je suis entré dans le monde des livres par la porte d'Abdul Hazred, l'arabe fou de Damas, disait Riyad Satouf. Et vous-même, Bernardo Toro, par quelle porte êtes-vous entré pour pénétrer l'œuvre, le monde, l'univers de H.P. Lovecraft?
La couleur née de l'espace, qui était la nouvelle que Lovecraft aimait le plus de lui, me paraît aussi aujourd'hui et dès le départ comme la plus aboutie. Et
la couleur née de l'espace, oui.
Oui, exactement, qui a été auparavant traduit comme la couleur tombée du ciel, qu'Isabelle Barra a traduit comme la couleur née de l'espace. Pourquoi? Parce que Lovecraft reprochait beaucoup à la science-fiction de son époque, et même à celle d'aujourd'hui, s'il était vivant, qu'il y avait une dimension trop anthropomorphique dans toutes les représentations du monstrueux. Alors que lui, ce qui intéressait, c'était montrer une étrangeté radicale, une altérité absolue face à l'homme. Et donc, il a cette idée absolument géniale d'imaginer une créature qui n'a pas de forme prédéfinie, qui prend toutes les formes, qui est une couleur, c'est-à-dire quelque chose qui par définition, n'a pas de forme propre. Et donc, en faisant ça, il est vraiment aux antipodes de toute vision anthropomorphique du monstre, du monstrueux, du mal. Je pense que malheureusement, il n'a pas pu poursuivre sur cette voie parce que je pense qu'il aurait perdu tous ses lecteurs. Mais sa volonté et le sens qu'il donne à sa quête du fantastique allaient dans le sens d'un échec, d'un divorce total avec toute vision anthropomorphique du mal.
Alors, les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft sortent donc dans une édition qui est complètement consacrée aux nouvelles publiées par des grands auteurs. D'ailleurs, les éditions Rue Saint-Ambroise sont spécialisées dans la nouvelle. Mais il y a peut-être une autre raison qui vous a poussé à vous intéresser à Lovecraft, puisque vous écrivez en postface que Lovecraft, s'il est de plus en plus présent dans notre imaginaire, c'est parce que nous vivons dans le monde de Lovecraft.
Tout à fait. Nous vivons dans le monde de Lovecraft. Et pourquoi nous vivons dans le monde de Lovecraft? C'est parce que, je vous disais, chez Lovecraft, il y a une telle disproportion entre ces créatures venues d'ailleurs et l'homme qu'il n'y a pas de lutte possible. Je pense que nous sommes entrés dans un monde où l'homme a affaire à des systèmes, à des logiques suprapuissantes et contre lesquelles il ne peut pas lutter, contre lesquelles il ne peut pas se battre. Ces logiques ne veulent pas forcément le mal de l'homme, ne veulent pas nuire à l'homme, et pour elles, l'homme est quantité négligeable. Mmh. Je crois que nous sommes dans un monde effrayant parce qu'on nous le présente souvent sous forme de lutte, comme s'il fallait lutter pour le bien, lutter pour un monde meilleur, lutter pour s'en sortir. Or, le monde dans lequel nous vivons réellement est un monde où nous sommes totalement impuissants face à ces déterminations extérieures qui nous dominent et nous écrasent. Et donc, dans ce monde-là, effectivement, Lovecraft fait figure de précurseur.
Je ne suis pas fou. Je souhaite juste aujourd'hui prévenir le monde des horreurs indicibles qu'une nouvelle expédition dans ce désert blanc pourra libérer. Non, je ne suis pas fou. Je les ai vus, ces entités rampantes, plus anciennes que les hommes, ces immondices cachées dans leur cité de pierre noire.
Merci Bernardo Toro. Je rappelle donc les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft avec de nouvelles traductions et une nouvelle inédite. C'est aux éditions Rue Saint-Ambroise et ça vient de sortir. Ça vient de sortir également chez Gallimard mais en audiobook, l'essai de Michel Houellebecq consacré à Lovecraft, et vous trouverez quelques liens utiles à la page de l'émission Le Réveil Culturel qui vous guideront jusqu'à la compagnie des œuvres consacrées à Lovecraft. Merci tout le monde.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Bonne journée à vous toutes et à vous tous. On se retrouve demain à la même heure. Dans un instant, les premières informations du jour.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en trois parties, un grand entretien avec un artiste, affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le 5 janvier, FIP fête ses 50 ans sur l'antenne. Avec des témoignages d'auditeurs, un club jazz à FIP exceptionnel avec Julien Elifiori et André Texier, des anecdotes sur l'histoire de FIP et des secrets de fabrication. Rendez-vous tout au long de l'année pour des moments inattendus, des expériences inoubliables. FIP va faire de 2021 une année irrésistible. FIP, une radio de Radio France.
France Culture, il est 6h30, tout de suite le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité ce matin, la vaccination en France, elle a beaucoup de mal à démarrer. Nous ferons le point sur le fichier des vaccinés qui rassemblera leurs données personnelles. Et puis nous irons en Espagne où la campagne vaccinale suscite là aussi des tensions entre le pouvoir central et les régions. En Turquie, les députés pourraient ratifier un traité d'extradition des Ouïghours vers la Chine. Enfin, nous reviendrons à la fin de ce journal sur le nouveau mode de calcul des APL effectif depuis le 1er janvier. La campagne française de vaccination contre le Covid ne va pas assez vite, c'est Emmanuel Macron qui le dit. En Conseil de défense sanitaire, le chef de l'État aurait tapé du poing sur la table, c'est ce que croit savoir le JDD notamment, qui mentionne la colère du président contre les lenteurs excessives d'une administration tatillonne qui empêcherait la campagne de prendre toute son ampleur. On rappelle que selon les chiffres du ministère de la Santé, 516 personnes étaient vaccinées au 1er janvier, quand des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis ont déjà vacciné des milliers de personnes. À partir de ce lundi, le calendrier français accélère un peu. Tous les soignants de plus de 50 ans pourront se faire vacciner. Les doses de vaccins seront livrées en priorité dans le Grand Est. Enfin, à partir de ce lundi également, 35 citoyens seront tirés au sort pour évaluer la campagne de vaccination et rendre un bilan d'ici le mois de juillet. Autre aspect de cette campagne vaccinale qui a du mal à démarrer, la création d'un fichier des personnes vaccinées. Vacciné, baptisé SI Vaccin Covid, ce fichier sera co-géré par la Direction Générale de la Santé et l'Assurance Maladie et il recensera plusieurs données personnelles, ce qui suscite quelques inquiétudes, mais le gouvernement et la CNIL l'assurent, ce fichier ne sera pas un moyen de surveillance. Laurine Benjebria.
Ces données relèvent du secret médical. Leur accès est donc limité aux soignants qui vaccinent, aux médecins traitants, aux agents de l'assurance maladie et de l'agence de sécurité du médicament, notamment pour les éventuels effets secondaires. Pour les chercheurs, l'accès sera restreint, promet Thomas Dautieu, directeur de la conformité de la CNIL.
On ne travaille pas sur les noms, prénoms, numéros de sécurité sociale. On travaille sur des données pseudonymisées.
Des données qui ne pourront pas être effacées et qui seront conservées pendant au moins 10 ans sur une plateforme hébergée par Microsoft, ce qui ne rassure pas Christiane Ferral-Schul, avocate spécialiste du numérique.
Cela peut poser la question de savoir s'il peut y avoir un accès par notamment les États-Unis. Il faudrait être sûr qu'il n'y aura pas de transfert ou de risque à ce niveau-là.
Selon la CNIL, les données migreront vers un prestataire européen d'ici 2 ans et des contrôles seront exercés, notamment sur les systèmes de sécurité. Systèmes qui devront être robustes, prévient Bernard Lamont, avocat spécialiste en droit de l'informatique.
Les serveurs doivent être paramétrés de façon telle que les ordinateurs qui pourront aller déclencher des demandes d'informations soient bien identifiés.
Dernière inquiétude soulevée par ce fichier, son utilisation. Le gouvernement l'assure, ce système n'aura pas vocation à être étendu à d'autres vaccinations.
Demain, un gouvernement pourrait dire « Tiens, j'utilise ces données pour une autre raison ». Le risque me semble faible aujourd'hui compte tenu des contrôles démocratiques qui s'exercent en France.
Avec notamment les référés liberté et le Conseil d'État qui pourraient servir de vigie.
Il n'y a pas qu'en France que des retards à l'allumage perturbent la vaccination. En Espagne, le ministre de la Santé avait annoncé à la mi-décembre que 70% de la population serait vaccinée d'ici l'été. Mais en ce début d'année, rien n'indique que l'objectif sera bien atteint, ce qui provoque une bataille politique entre le gouvernement et les régions. Le correspondant de France Culture à Madrid, Mathieu de Taillac.
Difficile de savoir comment vont les vaccinations en Espagne, car pour le moment, il n'y a pas de chiffres nationaux. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, est optimiste.
Les doses que nous allons recevoir du vaccin Pfizer-BioNTech d'ici 12 semaines permettent de couvrir la première étape de notre plan de vaccination, autour de 2,5 millions de personnes. Ensuite, nous pensons que vers mai-juin, entre 15 et 20 millions de personnes pourraient être vaccinées, et vers l'été, nous arriverions à des chiffres plus importants.
Mais sur le terrain, les régions, chargées d'organiser les vaccinations, trouvent que les livraisons ne vont pas assez vite. La présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de droite, mène la fronde contre le gouvernement de gauche.
Dans le cas de Madrid, on attendait un nombre beaucoup plus élevé. Alors j'espère que finalement, un plus grand nombre de vaccins arrivera. Sinon, à ce rythme, on va mettre de très nombreux mois à vacciner les citoyens.
Ce qu'Ayuso ne dit pas, c'est que de ces doses qui arrivent trop lentement, la région n'a réussi à appliquer que 6%. Les difficultés d'organisation concernent visiblement tout le monde, le gouvernement central et les régions, la gauche. Et la droite.
Au Royaume-Uni, la population pourra, elle, à partir d'aujourd'hui, bénéficier d'un second vaccin, celui du laboratoire britannique AstraZeneca et de l'université d'Oxford. Les autorités ont commandé 100 millions de doses, dont 520 000 sont prêtes dès aujourd'hui, selon le ministère de la Santé britannique. Des centaines de nouveaux centres de vaccination doivent par ailleurs ouvrir cette semaine. Aux États-Unis, cette campagne de vaccination pourrait atteindre 1 million d'injections par jour, ont assuré des responsables, tandis qu'en Égypte, les autorités annoncent avoir autorisé l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm. Le fondateur de Wikileaks, qui avait permis de diffuser des centaines de milliers de documents cryptés et parfois compromettants depuis 2009, saura aujourd'hui s'il sera ou non extradé vers les États-Unis, qui le réclament depuis des années pour le juger. L'Australien Julian Assange, sous le coup depuis 2010 d'un mandat d'arrêt suédois dans le cadre d'une enquête pour viol classée sans suite. Assange, donc, qui s'est réfugié en 2012 dans l'ambassade d'Équateur à Londres avant d'être enfermé au Royaume-Uni, dont la justice dira ce matin si elle accepte ou non de le renvoyer aux États-Unis. Il risque potentiellement 175 ans de prison pour, selon la justice américaine, avoir mis en danger des sources américaines partout dans le monde. Autre dossier d'extradition sensible, cet accord de 2017, ratifié il y a peu par les députés chinois, qui prévoit d'extrader depuis la Turquie la minorité ouïghour, dont beaucoup de ressortissants ont fui la Chine pour se réfugier en Turquie, justement. Le sort de cette minorité est aujourd'hui entre les mains des élus turcs. C'est en effet l'un des dossiers sur lequel ils doivent se prononcer en cette rentrée. À Istanbul, certains Ouïghours se réunissent tous les jours devant le consulat chinois pour demander des nouvelles de leurs proches disparus. Et c'est peu de dire que ce traité donc les inquiète. Le reportage sur place de Cerise Sudri.
Devant le consulat chinois à Istanbul, cela fait 10 jours que des ressortissants Ouïghours brandissent des photos de leurs proches dont ils sont sans nouvelles depuis parfois des années. Hissan s'y rend chaque jour. Journaliste pour Radio Free Asia, qui publie de nombreux reportages sur la communauté ouïghour, il reste très sceptique sur ce traité. Lui-même écrit sous un faux nom, de peur que par représailles à ses articles, le gouvernement chinois ne s'en prenne à sa famille, reste au pays.
La formulation du traité est assez brumeuse et permet de s'en prendre aux activistes par le Parti communiste chinois.
Le texte doit d'abord passer par la Commission des affaires étrangères du Parlement turc avant d'être ratifié. Et il risque de rencontrer plusieurs obstacles, comme l'explique Ünal Çevikköz, députée de l'opposition.
Ça n'a pas encore été discuté à la Commission des affaires étrangères du Parlement. Donc, il doit y avoir probablement une hésitation de la part du gouvernement. Et la Turquie est membre du Conseil de l'Europe et signataire de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que des traités d'extradition ne peuvent pas être signés avec des pays qui appliquent la peine capitale.
Écartelé entre l'opinion publique très sensible à la cause ouïghour et les capitaux chinois, le gouvernement Erdogan sera très scruté sur la question.
C'est une prestation sociale essentielle pour beaucoup de Français, notamment les étudiants, les APL ou aides au logement, dont la réforme a été plusieurs fois reportée. Cette fois, ça y est, depuis le 1er janvier, ces allocations logement qui financent une partie du loyer de 6,5 millions de ménages à faible revenu ne sont plus calculées selon le même mode. Elles dépendent toujours des ressources du foyer, mais ne seront plus basées sur les revenus de l'année précédente. Désormais, les APL seront calculées en temps réel, ce qui devrait permettre au gouvernement de faire quelques économies, Catherine Pétillon.
En pratique, de janvier à mars, l'APL sera calculée sur les revenus de décembre 2019 à novembre 2020, puis à partir d'avril, sur les revenus de mars 2020 à février 2021. L'objectif mis en avant par le gouvernement, c'est de prendre en compte plus rapidement les hausses et baisses de ressources de chacun. Mais cette réforme n'est pas que technique, elle s'inscrit dans un objectif d'économie. Elle devrait représenter entre 500 et 700 millions d'euros. C'est 2 fois moins que ce que le gouvernement escomptait. Mais avec la crise sanitaire et les baisses de revenus, de nouvelles personnes vont être éligibles à ces allocations de logement. En revanche, ce nouveau mode de calcul va baisser les droits de ceux dont les revenus viennent d'augmenter, et en particulier les jeunes qui commencent à travailler. Afin de minimiser l'effet pour les étudiants, a été mis en place un forfait plancher en dessous duquel aucun revenu ne sera pris en compte pour le calcul de l'allocation. Cela vaut aussi pour les apprentis. Reste le cas des jeunes qui entrent dans la vie active et perdront eux les aides dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Pour eux, le ministère réfléchit à un soutien ponctuel, mais la décision n'a pas encore été prise.
Et pour savoir le montant exact de ces futurs appels, les bénéficiaires peuvent faire des simulations sur le site de la CAF ou sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Le temps de ce lundi, toujours gris et neigeux dans plusieurs régions. De faibles chutes de neige à prévoir dans les Pays de la Loire, Centre, Val-de-Loire, Bourgogne et Champagne-Ardenne ce matin, puis au nord de la Seine cet après-midi. Ailleurs, temps gris avec de rares éclaircies. Les températures minimales de moins 2 à 5 degrés ce matin. Comptez cet après-midi de 2 à 5 sur les deux tiers nord du pays, de 5 à 9 sur un bon tiers sud. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Dans votre journal des idées ce matin, retour sur le Brexit. Les Britanniques ont donc quitté l'Union européenne, mais contrairement à ce qu'on pouvait craindre, le Brexit n'a pas vraiment constitué de précédent pour d'autres candidats.
Oui, dans Le Monde, l'historien et politiste néerlandais Luc van Middelaar en juge pour son pays, assez proche du Royaume-Uni par affinité libérale et nationaliste. Le retrait de l'Europe n'est plus une proposition crédible comme elle l'a été l'espace d'un instant. De même en Italie, où s'est exprimé au printemps 2020 un mouvement anti-européen pour dénoncer le manque de solidarité de l'Europe face à la pandémie de Covid-19, il était passager. Le spectacle que nous a offert la politique britannique n'inspire pas confiance, ajoute-t-il. Au contraire, face à cela, l'Europe a fait preuve d'une grande cohésion. Luc van Middelaar souligne que le plan de relance n'aurait jamais eu cette ambition si les Britanniques avaient eu leur mot à dire, car ils auraient mis leur veto à un plan financé par un emprunt levé par la Commission au nom des 27, tout comme il y a 10 ans, en pleine crise de la zone euro, ils s'étaient opposés à ce que le budget communautaire vienne en aide aux pays en difficulté. Depuis Margaret Thatcher, le Royaume-Uni a toujours œuvré pour limiter l'ampleur du budget européen et donc la force de frappe de la Commission. Aujourd'hui, le fait que la Commission lève une dette commune a renforcé la crédibilité de l'Union européenne sur la scène internationale. Ce plan de relance est un véritable approfondissement de l'Europe. Pour différentes raisons, le Royaume-Uni n'a jamais été à l'aise à la place qui lui a été proposée au sein de la trinité de l'UE aux côtés de la France et de l'Allemagne, rappelle Fintan O'Toole dans The Observer, relayé par Courrier International. L'éditorialiste irlandais s'emploie à relever les aspects les plus positifs de ce parcours commun. Deux jalons de l'histoire européenne n'auraient pas pris leur forme actuelle sans les Britanniques, le marché unique et l'élargissement. Le Royaume-Uni les a d'ailleurs défendus sans vraiment en comprendre les ramifications politiques, et c'est ce qui a fini par poser problème, notamment le fait que les rouages d'un marché unique doivent être contrebalancés par des normes communes en matière sociale, environnementale et de sécurité, ainsi que par les moyens politiques, juridiques et administratifs de les appliquer. Et concernant l'élargissement à l'Europe de l'Est, c'est sous la présidence britannique que les négociations ont été ouvertes, mais là aussi, toutes les implications de cette politique n'ont pas été envisagées ni expliquées, en particulier le fait que la liberté de circulation allait entraîner plus d'immigration en provenance de ces pays, ou que la gouvernance d'une Union européenne élargie allait forcément nécessiter une coordination plus rapprochée. Reste que son intégration au sein de l'UE a permis au Royaume-Uni de transcender son passé de puissance impériale et de se projeter dans un avenir européen, trouvant ainsi une place dans le monde qui ne dépendait pas de sa grandeur passée. La revue Politique étrangère publie un dossier sur le Brexit et ses conséquences sur les relations internationales et la nouvelle position du Royaume-Uni dans le jeu des grandes puissances. Stephen Wall, que je viens de citer, rappelle que le pays bénéficiait comme État membre important, aux côtés de 27 autres démocraties, d'un poids et d'une influence largement supérieure à sa taille réelle. La Royal Navy comptait seulement 70 vaisseaux en 2015 contre 202 en 1960, souligne-t-il, et au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est désormais la France et elle seule qui pourra se déclarer porte-parole de l'Europe. Quant aux relations avec les États-Unis, le conseiller diplomatique rappelle que les présidents américains les ont qualifiés de spéciales, non pas parce qu'ils y croyaient vraiment, mais parce que leurs alliés britanniques ont toujours voulu y croire. Pour Washington, la valeur de la Grande-Bretagne tenait en grande part à ce qu'elle lui ouvrait un canal direct vers l'Europe. Or, UE, la Grande-Bretagne a pour Washington un intérêt plus limité, estime Adrien Abekassis et Jolan Haworth. Il relève que les questions de sécurité et de défense ont été largement ignorées pendant les négociations du Brexit, si ce n'est par le gouvernement de Theresa May qui, tout en affirmant son désir de poursuivre une relation militaire profonde et spéciale avec l'UE, laissait d'abord entendre que celle-ci pourrait constituer une monnaie d'échange contre des résultats dans d'autres domaines. On peut raisonnablement considérer que les intérêts stratégiques du Royaume-Uni resteront liés à ceux de l'Europe, voire, ironie de l'histoire, qu'ils le seront de plus en plus. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous et tous mes voeux à chacun pour cette nouvelle année.
Merci une fois de plus Julie, nous sommes raccord puisque vous vous intéressez à l'accord commercial que le Royaume-Uni peut espérer avec l'Amérique de Joe Biden.
Oui, trois jours après la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne dont vous venez de longuement parler Jacques, et au lendemain de la rentrée aux États-Unis d'un congrès renouvelé, quel souhait pour 2021 Boris Johnson peut-il formuler en faveur de la special relationship, la relation spéciale censée unir toujours les deux pays? Boris Johnson, qui n'a pas manqué d'optimisme pour mener à bien le Brexit, en fait usage aussi quand il évoque cet accord commercial, notamment, que le Royaume-Uni a commencé à dessiner avec son partenaire américain. Bonjour Sylvie Matelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors cet accord commercial en discussion entre Londres et Washington, sur quoi porte-t-il? Est-ce sur les droits de douane, par ailleurs rétablis entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Est-ce que c'est sur les normes réglementaires qui ont été l'une des pierres d'achoppement majeures dans les discussions avec Bruxelles?
Alors c'est un accord commercial, donc essentiellement sur les questions de commerce, et il va intégrer bien évidemment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les droits de douane, les quotas, et puis également la normalisation, avec tout de même un petit bémol pour Boris Johnson, c'est que sur la normalisation, il est un petit peu pris au piège par l'accord qu'il a finalement consenti avec les Européens, puisque il y a un aspect norme dans cet accord avec les Européens et qu'il ne peut pas s'éloigner notablement, en tout cas à la baisse, des normes européennes. Donc ça, c'est un premier aspect. À part ça, ça reste assez flou. Ça reste assez flou pour différentes raisons. D'abord parce que l'accord commercial qui avait été envisagé par Boris Johnson à l'époque où Donald Trump était là, et par Donald Trump d'ailleurs, était un accord qui se voulait extrêmement large. C'est ce qui était indiqué. Mais Donald Trump avait un petit peu refroidi les ardeurs des Britanniques puisqu'il avait proposé la privatisation du système de santé britannique pour que les entreprises américaines puissent investir au Royaume-Uni et puis se participer à ce système de santé. Et on se souvient que ça avait fait très fortement polémique. Aujourd'hui, on est face à Joe Biden, le nouveau président, ou en tout cas dans les négociations, on va être face à la nouvelle administration démocrate. Et on a encore très peu d'éléments sur la vision que peut avoir Joe Biden et son équipe sur la négociation et sur ce qu'il souhaite avec le Royaume-Uni.
Certains disaient à une époque que le Royaume-Uni irait jusqu'à faire partie d'un NAFTA élargi. Donc le NAFTA, c'est l'accord de libre-échange nord-américain. On est loin de ce genre d'accord. Ce serait quoi un accord équitable en fait? Qui y cherche quoi?
Alors, un accord équitable serait probablement un accord qui ouvrirait ou qui maintiendrait l'accès au marché américain au Royaume-Uni et qui, de la même manière, et c'est ce que revendiquaient les Américains, permettrait aux Américains également à la fois de faire du commerce avec le Royaume-Uni, mais ce qui intéressait vraiment les Américains, c'est de pouvoir investir plus librement au Royaume-Uni. Ils sont déjà très très présents au Royaume-Uni, ils avaient cet intérêt-là. En sachant que les Américains, dans un tel accord, ont quand même perdu le lien qu'avait le Royaume-Uni avec l'Union européenne et qui permettait aux entreprises américaines ayant investi, étant présentes au Royaume-Uni, de pouvoir accéder plus facilement au marché unique. Alors l'accord qui a été signé avec les Européens est une bonne nouvelle, puisque c'est un accord qui permet encore un accès au marché unique aux entreprises britanniques, mais avec des conditions sur l'origine des produits, avec des conditions sur l'origine des productions et sur les normes également.
Alors que cherche le Royaume-Uni auprès des États-Unis? Autrement dit, Sylvie Matelli, est-ce que le fond de l'affaire, est-ce que son intérêt est strictement commercial? Maintenant qu'il a pu d'ailleurs obtenir un accord plutôt avantageux auprès des Européens le 24 décembre, et d'ailleurs, pour rappeler un chiffre important, les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est aujourd'hui 262 milliards de dollars par an, c'est 3,5 fois moins que les échanges Royaume-Uni-Union européenne. Alors, on va voir ce que ça devient dans les prochaines années, mais surtout, est-ce que le fond de l'affaire est commercial dans cet accord en train de se dessiner?
Alors, il y a indéniablement une partie commerciale, puisque la balance commerciale du Royaume-Uni est positive avec les États-Unis, alors très faiblement, mais elle est positive alors même que le Royaume-Uni affiche un énorme déficit commercial. Donc, il y a quand même une dimension commerciale, même si les relations commerciales se sont fortement réduites, en fait, depuis plusieurs décennies, du fait de la participation du Royaume-Uni au marché unique, qui a plutôt rapproché le Royaume-Uni de l'Europe. Mais, somme toute, le Royaume-Uni, risquant de perdre une partie de ses parts de marché en Europe, peut aller rechercher ailleurs, et ça se comprend très bien. Mais c'est vrai que la relation spéciale dont vous avez parlé au tout début de l'émission, la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, elle englobe beaucoup d'autres choses. Alors pour les citoyens britanniques, c'est essentiellement la culture et la langue, la fierté aussi, cette fierté qui reste dans la tête des Britanniques, d'avoir été les deux grandes puissances qui ont sauvé, les deux grandes démocraties qui ont sauvé la démocratie occidentale au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a cet aspect-là. Dans la vraie vie, cette relation spéciale, c'est aussi la relation stratégique. Il y a une relation spéciale nucléaire, puisque les Britanniques dépendent de la force de frappe nucléaire des États-Unis. Donc la force stratégique britannique dépend des États-Unis. Vous avez des relations militaires qui sont extrêmement fortes au sein de l'OTAN. Les États-Unis et le Royaume-Uni étant les deux principaux contributeurs à l'OTAN. Donc on a une relation qui est beaucoup plus large, et c'est cette relation spéciale qui n'a de spécial que parce que le Royaume-Uni la pense spéciale. Les Américains oublient très souvent de parler de cette relation spéciale. Barack Obama avait même parlé d'une relation essentielle, ce qui voulait dire que les deux pays n'étaient pas égaux exactement dans leur force et dans leur puissance, mais qu'ils avaient quand même une relation qui était très importante. Ça avait profondément froissé les Britanniques à un certain moment, et d'ailleurs tous ces deux mandats, Barack Obama avait expliqué ce qu'il entendait par essentiel en essayant de valoriser ce mot d'essentiel, parce que la special relationship était quelque chose d'incontournable pour les Britanniques.
D'incontournable pour les Britanniques, mais qui de moins en moins peuvent se permettre de contribuer à des opérations militaires menées par les Américains. Le Royaume-Uni s'est joint comme deuxième puissance contributrice à 9 des 12 opérations militaires menées par les États-Unis entre 1991, la guerre du Golfe, et 2018. C'est de moins en moins le cas. Est-ce que c'est par choix politique, ou est-ce que c'est parce que le Royaume-Uni n'en a plus les moyens?
C'est essentiellement parce que le Royaume-Uni n'en a plus les moyens. Et vous remarquerez que à chaque fois qu'un premier ministre a eu l'intuition que la relation stratégique pouvait être plus équitable avec l'Union européenne, à chaque fois, il a été rattrapé par une opinion publique, par un parlement aussi, qui est très atlantiste, qui veut, malgré tout, quoi qu'il arrive, maintenir sa relation avec l'OTAN. Je pense à Tony Blair, qui, quand il est arrivé au pouvoir, il avait même envisagé la possibilité d'un référendum pour participer à l'euro. Ça paraît de la science-fiction aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé dans l'histoire, et on se rend compte, il arrive au pouvoir en 98, il a cette vision-là, cette volonté, il signe les accords de Saint-Malo avec Jacques Chirac qui vont renforcer la défense européenne, et puis en 2003, il suit, je me permets l'expression, comme un petit toutou, parce qu'on l'a comparé au caniche de George Bush, il suit les Américains en Irak, en sachant très bien que derrière la volonté des Américains d'aller en Irak, il y a quelque chose qui est très, très proche des intérêts américains. On a eu la même chose avec Gordon Brown, et quand Gordon Brown quitte le pouvoir et le laisse à Cameron, c'est Cameron qui tout d'un coup fait un virage à 180 pour à nouveau se rapprocher des Américains. Donc on s'aperçoit que ce lien aux États-Unis, c'est quand même un lien qui est assez viscéral, qui est vraiment historique au Royaume-Uni, et c'est ça que va chercher Boris Johnson, peut-être aussi pour redorer un petit peu son image de marque et sa popularité qui ont été fortement affaiblies en 2020.
Le Boris Johnson qui a fait beaucoup d'efforts pour montrer que lui aussi pouvait défier la grande adversaire des États-Unis, la Chine sur des questions commerciales. Il a interdit à Huawei l'accès au réseau 5G britannique. Il a imposé des sanctions à Pékin pour son attitude envers Hong Kong. Il s'est d'ailleurs proposé d'offrir aux 3 millions de résidents de Hong Kong le statut de réfugié. Mais sur des questions diplomatiques et sécuritaires, il a aussi fait montre de, alors lui ou les élites politiques britanniques, de division sur des questions majeures pour les Américains, comme le nucléaire iranien, le changement climatique ou le rapatriement des djihadistes. Trump a plusieurs reprises a demandé à Londres, comme à Paris d'ailleurs, de rapatrier leurs ressortissants partis faire le djihad en Syrie. C'était des questions qui ont vraiment opposé les deux pays.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu des questions qui ont opposé les deux pays. Et sur le traité sur le nucléaire iranien, les Anglais sont restés très proches des Européens. Reste à voir ce qui va se passer maintenant avec ce Brexit et puis cette volonté de rapprochement des États-Unis. Moi, ce que je retiens somme toute, c'est ces dernières semaines où, au fond, on peut presque dire que l'accord avec les Européens n'aurait jamais été atteint et signé par Boris Johnson sans le changement de majorité aux
États-Unis. Sylvie Matelli, on vous a perdu. Je pense que vous parliez du changement de majorité aux États-Unis, l'élection de Joe Biden, évidemment, qui va rebattre les cartes dans cette aussi pour la relation spéciale qui unit États-Unis et Royaume-Uni. Notamment, les démocrates américains ont toujours eu la faveur des Britanniques. J'aurais aimé que vous nous expliquiez pourquoi, mais vous avez disparu, Sylvie Matelli, à moins que vous soyez de retour. Non, toujours pas. Voilà, et puis on aurait pu également se demander si le Brexit préoccupait ou à tout le moins intéressait les Américains. John Bolton lui-même avait reconnu en son temps pas si lointain que nul ou presque ne s'en souciait dans son administration, mais les élus démocrates, eux, sont attachés et ce sera aussi un des sujets abordés pour régler cet accord commercial dont nous parlions au début de cet entretien, à ce que soit résolu le différend sur la frontière irlandaise. Voilà, Nancy Pelosi notamment a dit que c'était une condition sine qua non. Merci beaucoup Sylvie Matelli d'avoir été avec nous pour la majeure partie.
Vous voulez que je vous pose une question, Julie Gacon?
Bonne année Guillaume.
Bonne année, excellente année Julie Gacon, bonne année à tous nos auditeurs et nos auditrices.
Vous aviez une question à poser à Sylvie Matelli qui a disparu, je peux
comprendre. Mais non, mais apparemment vous arrivez très bien à répondre aux questions que qui normalement à mes propres lui seraient questions. Destinées, donc voilà, j'aurais pu vous y aider. Je peux vous dire aussi que dans quelques instants, vers 7h40, nous allons recevoir Bernard Pivot, car il publie « Mais la vie continue ». Alors il y a trois petits points avant « Mais la vie continue », et c'est chez Albin Michel. Voilà, Bernard Pivot sera notre invité ce 4 janvier 2021.
À tout de suite, Guillaume.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la Comédie Française. C'est un boulimique de travail au désir incessant de jouer et faire jouer.
Et là, on a développé avec Christophe un autre culte, le culte de Proust, en échangeant des textes, des impressions, en lisant, se dire maintenant on fait une lecture exhaustive, il faut lire toute la recherche.
Denis Podalydès se raconte à voix nue de lundi à vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Eh bien, bonjour à nouveau Guillaume.
Eh bien, bonjour Gilles Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Alors, est-ce qu'il faut faire vacciner sa mère en premier?
Eh bien, c'est une excellente question, Julie, parce que la vaccination démarrera probablement un jour en France. Et on a beaucoup parlé des anti-vax, mais moi, je pense que ce sont souvent des anti-vax pour soi-même, mais pas pour les autres. L'hostilité au vaccin, généralement, elle cède lorsqu'on pose la question de savoir si, pour autrui et notamment pour un autrui vulnérable, il faudrait qu'il y ait vaccination. Donc là, en l'occurrence, comment faire vacciner sa mère, sachant que votre mère n'est pas prioritaire parce qu'elle n'est pas en EHPAD ou bien parce qu'elle n'appartient pas au personnel soignant de plus de 50 ans. Faut-il chercher un passe-droit, déguiser sa mère en soignant, mentir pour pouvoir piquer sa mère face à ce dilemme? Deux attitudes. Alors la première attitude, la première catégorie, appelons-la celle des canciens. Pour eux, il s'agit d'universaliser leur comportement pour en faire la règle commune à la vie en société. Dans cette perspective, il est évidemment impossible de faire vacciner sa mère si celle-ci n'y a pas droit. Mais dans le même temps, eh bien, les canciens, Julie, ont été à rude épreuve pendant cette pandémie. Leur taux de mortalité n'a pas été plus élevé que celui des non-canciens. Enfin, en tout cas, j'ai pas les statistiques à ce sujet, mais ils ont avalé beaucoup de couleuvres. Ainsi, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas droit au masque tout au début de la période de confinement, alors que quelques semaines plus tard, eh bien celui-ci, le masque, devenait obligatoire pour eux. Second terme de l'alternative, être, disons, camusien, parce que l'on prête à Albert Camus un propos un peu apocryphe, mais j'en ai besoin pour ma démonstration. Alors je vais m'en saisir. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Dans cette condition, eh bien, pas de doute possible, j'ignore la justice et je fais vacciner ma mère. Ce n'est pas moral du point de vue collectif, mais c'est moral du point de vue familial. Vous aidez votre mère, à qui vous devez beaucoup, enfin j'imagine, Julie. Et si vous ne l'aidez pas, eh bien, personne ne l'aidera. Être camusien en ce sens, hein, c'est d'avoir moins de principes, mais aussi moins de remords, en tout cas, d'autres principes que les principes collectifs. C'est en fait considérer que du bois tordu de l'humanité, on ne peut pas faire quelque chose de droit. Mais alors, justement, si l'humanité n'est pas droite, il faut accepter de guider la seringue pour piquer droit.